Merci pour ces infos. Et comme chaque jour, on vous invite dans notre bureau pour vous faire croire qu'on travaille quand même. Salut les amis.
Salut Charline.
Hé, hey, attendez, il est énorme ce studio 105.
Bah oui, mais il y a beaucoup de gens qui veulent nous voir.
Hein. Oui, c'est des chômeurs sans doute.
Ouais. Ou des profs. De toute façon, qui a le temps de venir se poser dans un studio à 17h?
En tout cas, moi j'espère qu'ils seront plus beaux que la dernière fois.
Ah, ouais. Qui ça?
Mais les gens du public. Je sais pas pourquoi. On attire que des gens avec des physiques étranges.
Ouais. Peut-être qu'on leur vend du rêve.
Hein. Ah oui, alors peut-être qu'ils se reconnaissent en vous.
Hein. C'est ça. Et ils sont où les deux chroniqueurs?
Bah, je leur ai fait faire des petits travaux dans le studio.
Ah ouais, moi j'en peux plus de maroufler.
Bah écoute Thomas, ça va, on reçoit Valérie Damido et il faut que ce soit beau, tu vois.
Ok, ouais. Moi je suis comédien, je suis pas charpentier.
Oh, Hippolyte.
Oui, bah, d'ailleurs on sent bien que t'es pas dans le rôle.
Bah, c'est vrai qu'au casting pour jouer Joseph dans La Vie du Christ, je te prends pas moi.
Hein. Bah ok, ça va, moi si je fais La Vie du Christ, je joue Jésus.
Oh. Oui, bon, enfin moi il me reste des clous d'ailleurs et un marteau, on peut faire des essais.
Bon écoutez, ça suffit parce qu'on sera jamais prêt là.
Mais choisis des sujets déjà.
Oui, alors ça va, c'est fait. Hein. Alors j'ai choisi des sujets Hollande ou Valls, congélation des ovocytes et des publicités pro-adultère.
Ah ben bah, c'est bon.
Quoi?
Eh ben on congèle les ovocytes de Valls.
Et Hollande fait des pubs pro-adultères.
Oh, voilà, ça va être long. Bon, Fred Fromet.
Oui.
Ouais, toi, qu'est-ce que tu fais, toi?
Bah, je sur le parquet.
Oui, enfin, tu ferais mieux de serrer ta guitare. Hein.
Mais ma chanson est écrite. Hein.
Ouais, c'est quoi le thème?
Non, mais.
Dis-le.
C'est un hommage au public.
Ah, oh, oui. Oh là là, c'est chouette, mais on peut écouter ou...
Oui. C'est sur du Souchon, mais je préfère pas.
Ouais, allez, s'il te plaît, un extrait.
Mais oui, allez, quoi.
Allô, maman, bobo. Maman, pourquoi le public est pas beau? Allô, maman, bobo. C'est le public de radio.
Oh, mon Dieu. Mais j'espère qu'ils auront le sens de l'humour, hein, le public du 105. Ouais. Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui prend le large pour aller à la conquête de l'information. Et voici les deux invités qui vont ramer pour faire avancer cette galère.
Allons-y.
Valérie Damido s'est lancée dans le public du studio 105. Oui. Et on l'a lancée sur des sujets comme la congélation des ovocytes ou les publicités qui vantent les mérites des relations extra-conjugales. Et puis Mickaël Youn a chauffé la salle en se souvenant de ses premiers émois. Dans l'isoloir, sa première fois où il a voté. Et puis on lui a soumis un sujet de dissertation, peut-on encore être optimiste?
Ça c'est beau.
Et voici l'homme de la synthèse de la dissertation, c'est Alex Vizorek.
Mais évidemment le médiateur, comme on appelle. Bonjour Charline Vanhoenacker, et moi aussi j'ai des chroniques en public, évidemment. Hippolyte Girardot nous parlera du Hollande bashing, mais parlera bien sûr de pas mal d'autres choses, parce qu'il ne sait pas se contenir à un seul sujet. Guillaume Meurice n'a pas de limite, il est allé ennuyer un SDF, vous voyez où on en est. Et puis on aura Thomas Bidguin qui nous parlera de la fin du monde, et c'est vrai que s'il a des infos, c'est pas inintéressant de l'écouter. Et enfin, Frédéric Fromet, en live, nous chantera son amour à Christine Lagarde.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Vous racontez votre vie, Valérie Damido, dans Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette, c'est paru chez Michel Lafon. C'est d'ailleurs carrément un tatouage. Le titre, vous l'avez chevillé au corps, si je puis dire.
Oui, je l'ai chevillé à l'avant-bras, ici.
Et pourquoi?
Parce que c'est un trait de caractère qui m'est proche. J'ai le cœur sur la main, mais il ne faut pas trop me chercher non plus, en fait. Sinon, la gâchette part.
D'accord, on va essayer de ne pas trop vous chercher.
C'est moi qui suis à côté, donc vous êtes gentil.
Valérie Damido, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais raconter ma vie et qu'est-ce que je veux en raconter? Parce qu'on se dit, bah, tiens, il y a plein d'animateurs télé qui publient leur vie, en quoi ça peut intéresser le public, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé?
L'argent,
ouais, non, pas que, non, en fait, tu sais, c'est plutôt Michel Lafon qui m'a proposé de le faire. Au début, je me suis dit, justement, c'est un peu mégalo de raconter sa vie. Je suis pas si vieille, quand même. Et en fait, tu sais, j'ai perdu ma maman il y a 4 ans. Mon père est pas non plus super enfant, mais je me suis dit que j'avais envie de leur faire une vraie grande lettre d'amour, parce que je parle beaucoup d'eux aussi, un peu plus que moi, presque. Mm-hmm. Et donc, j'avais envie de raconter un peu plein de conneries et d'anecdotes. Et puis, je me suis dit, 50 ans, en fait, tu sais, tu lis dans les magazines féminins la crise de la cinquantaine chez la femme. Tu penses que c'est des conneries de magazines féminins? Pas du tout. C'est vrai, tu te fais des petits bilans personnels. Tu dis, est-ce que j'ai bien vieilli? Est-ce que je me suis pas trahi? Est-ce que j'ai pas dit trop de conneries?
Et voilà. Le bilan est dans ce livre. Et justement, vous parlez de vos parents et vous en parlez très bien dans le début de l'ouvrage. Vous expliquez notamment les valeurs que vous ont transmis vos parents et d'un père syndicaliste plutôt anarque, qui nous paraît très très sympathique d'ailleurs dans le bouquin. Et pourtant, mais votre parcours, vous vous mène ensuite vous expliquer au début de la télé-réalité avec la Starac ou Love Story 2. Mmh. Et ça paraît contraire aux valeurs que vous ont inculquées vos parents, même si votre père dit à un moment si tu veux niquer le système, il faut rentrer dedans.
Voilà, bah tu vois, regarde, c'est ce que j'ai fait. non, mais oui, mais la télé-réalité, c'était très très marrant. Faut beaucoup de recul pour bosser dans la télé-réalité. Ouais. D'ailleurs, j'en suis vite sortie. J'ai repris une activité normale. J'ai été faire mon boulot de journaliste chez Mireille Dumas. C'est une autre forme de télé-réalité.
L'idée, c'était donc de se marrer, mais sur le moment, vous aviez quand même des interrogations, se disant est-ce que ce qu'on fait là, c'est moi, un bien de service, d'utilité générale.
D'utilité générale, en tout cas de divertissement certainement. Mais ouais. Non, moi, ça me fascinait les gens capables de vouloir s'enfermer sciemment. Alors la Starac, c'est encore autre chose, qu'ils chantent, ils ont un but. Mais le loft, c'était un truc qui m'intriguait. Comment
vous
tu peux choisir?
Vous êtes fasciné par les cons.
Ouais. Non mais tu sais, c'est très étrange de choisir de t'enfermer pendant des semaines avec des gens que tu ne connais pas, où t'es maté toute la journée par des caméras face à des miroirs. Ça, c'était fascinant. J'essayais de comprendre ce qu'était la motivation, à part l'argent.
Zazie a sa visite aux hommes. Zazie suçant son sang s'amusait de vermisant. Un vent blizzard fusant de son phasard, voici zigzagant dans les airs Asie et semble les airs l'oiseau des îles prises aux ombres. Papa paradis zigoué visionnaire jusqu'à ses demeures drôle de zigoto. Auteur du genre blasé, mateur de photos osées. S'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'Alcan-Seltzer. Elle visionne nos eaux survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébubus et grizzlies d'asile oiseaux. Des îles éprises aux eaux, pas l'autre zèbre. Bonne zig zazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de argent, scazo.
Vous venez d'assister à un exercice en forme de Z, c'est le titre de Jane Birkin.
Charline Vanhoenacker,
que je salue,
Alex Vizorek.
C'est quoi cette histoire? C'est...
Si tu écoutes... J'annule tout sur France Inter.
Valérie Damido est avec nous, qui publie Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette chez Michel Lafon. Et on va voir si vous l'avez ou pas, le doigt sur la gâchette, là, tout de suite, avec ce premier sujet, Valérie Damido. Des centaines de jeunes femmes quittent la France quelques jours, le temps d'aller faire congeler leurs ovocytes à l'étranger. C'est interdit en France, mais autorisé dans plein de pays d'Europe. Avant que l'horloge biologique ne sonne le glas, ces femmes souhaitent étirer le temps et se réserver une chance d'enfanter plus tard, ce qui est un atout et donc... Libérée, libérée, désormais plus rien ne m'arrête. Libérée, délivrée, plus de princesse parfaite. Je suis là comme je l'ai rêvé. Perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté.
liberté.
La Reine des Neiges, cette air qui vous vaccine contre l'envie d'avoir des enfants.
C'est la première fois qu'elle passe sur France Inter, je pense. Hein.
Je pense aussi.
C'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, où on se rend compte qu'il y a des centaines de jeunes françaises, il y en a une qui témoigne qui a 36 ans, qui passent la frontière, vont en Belgique ou en Espagne pour vitrifier leurs ovocytes afin de pouvoir avoir un bébé quand elles veulent plus tard et reculer l'horloge biologique. Alors, en France, c'est interdit sauf pour raisons médicales, par exemple une chimio. C'est autorisé dans plein de pays d'Europe. C'est une vraie demande des femmes qui font des études de plus en plus longues, parfois ont du mal à trouver du boulot, les urbaines, etc. La France interdit cela. Est-ce que vous, Valérie Dabideau, vous êtes plutôt libérale sur ce thème et la France pourrait avoir du retard dans votre regard
La France a du retard, de toute façon, si c'était que dans les ovocytes.
J'ose à peine vous le suggérer.
Moi, j'arrive même pas à comprendre. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, cette espèce de pression sociale, de trouver un mec, trouver un boulot, trouver une vie, trouver un appart, faire des enfants, se marier, rentrer dans les cordes, les cadres. Tout ça me fatigue énormément. Si une femme, elle a envie de faire des enfants à 40 ans ou 42 ans, ou jusqu'à ce que ça soit médicalement pas trop angoissant pour elle, je pense qu'elle a le droit de le faire, quoi. Donc j'arrive même pas à
comprendre. Les garçons n'ont pas ce problème.
Les garçons, non. Enfin, si, quoi qu'à un moment donné, ça s'appauvrit quand même.
Oui, c'est vrai. Jusqu'à quel âge, Alex,
Hippolyte,
Thomas?
Tiens, alors, du coup, puisque vous êtes...
Déjà père d'une famille très nombreuse.
Je voudrais juste que si Véronique Courgeot nous écoute, il faut congeler avant, bien entendu. Hein, ça, c'est important de le dire.
C'est important.
Disons aussi que ça a un coût très élevé. Ces femmes qui vont à l'étranger, ça coûte jusqu'à 3 800 euros avec le voyage. De toute façon, le faire, même sans le voyage, ça coûte cher. Donc finalement, c'est pas non plus très égalitaire. Mais l'idée, c'est.
C'est d'être libre. Ouais. Enfin, évidemment que c'est un coût. Mais pourquoi empêcher la France de dire OK, allons-y? Je comprends même pas. Donc,
Les gens feraient la même chose sans voyager.
Ouais.
C'est ça, alors que les voyages, c'est chouette.
Le voyage forme la jeunesse, effectivement.
Non, je sais pas.
En tout cas,
on peut pas non plus priver les gens du plaisir parce que déjà, ils font pas l'amour. Donc ensuite, si en plus ils voyagent pas, il en reste quoi?
C'est pas faux.
Enfin,
Thomas Bidegain.
Surtout voyager en Belgique.
Je vous renvoie cet article dans Le Parisien aujourd'hui en France où la fille de 36 ans qui témoigne a voulu rester anonyme, ce qui montre que là, sur ce thème, il y a même un tabou et que... Mais parlons-en, donc voilà, parlons-en avec Valérie Dabideau. Hippolyte Girardot, justement, on s'est adressé à vous. Est-ce qu'à 17h45 sur France Inter, vous nous feriez l'honneur?
Oui, avec grand plaisir, parce que
d'une pensée.
Avant dimanche, le monde était simple. On avait un président dont on se moquait très facilement, on le bâchait, comme disent les Anglais, puisque bâche en anglais, c'est rudoyer, maltraiter, voire bosseler, cogner, voire même tabasser, foutre des poings dans la gueule. C'est un verbe assez souple, to bash. Comme souvent avec les Anglais, c'est jamais direct. Il suffit de voir ce Brexit qu'ils votent et qu'ensuite ils essaient de contourner. Je ne parle même pas du rugby, où tu vois un mec foncer vers la ligne du but et au dernier moment, il lance la balle en biais et en arrière. Et en plus, la balle, elle est même pas ronde comme toutes les autres balles, non, elle est ovale, voilà, comme le bureau. Oui, alors c'est tout dire. Bref, bash est un verbe aussi perfide qu'albion. Et si tu rajoutes par exemple un hup, ce qui donne bash up, ça devient du bashing de haute compétition. Si votre copain vient vous dit I bashed up the car, vous oubliez la bagnole, vous achetez un vélo. Bref, ce président, on le bâchait, tout allait bien, c'était notre favori, normal en même temps, c'était le président, il y en avait bien évidemment d'autres. Genre Copé, il a pas coupé, Montebourg, dans les tours, lui aussi, placé, pas gagné, Morano comme Mono, Sarkozy, si, et d'autres encore, mais bref, c'est les spécialistes. Mais bon, lui, Hollande, quand même, il avait un plus, parce qu'il était aussi le préféré des dieux, qui n'oubliait jamais de le tremper dès qu'il prenait la parole, de faire tomber la foudre sur son avion, bref, à leur façon, il le bâchait, bref, on le bâchait, on était dans le bashing, au point même qu'on avait un mouvement anti-bashing, ce qui légitimait, évidemment, le bashing. C'est la gloire d'avoir un mouvement anti-bashing. Bon, mais ça, vous rigolez, mais c'était avant dimanche, eh oui. Alors, fini le bashing, là. Hein. Maintenant, on va faire du bâchage. Je vais vous expliquer. On va bâcher comme on le fait pour le fumier. Voilà. Il faut bâcher tout ça et laisser fermenter, regarder la température monter et tout réduire en compost. Voilà. On va prendre toutes les bâches disponibles. On s'en fout. Une sorte de programme commun de la bâche. On dira donc de la bauche. On va les coudre ensemble. On va bâcher tout ça. Une vieille technique moyenâgeuse pour des produits moyenâgeux. Le bashing est mort. Vive le bâchage!
Bonjour! Que très bas si je faiblis!
Merci Pauline Girardot, en direct depuis le studio 105 de la Maison de la Radio, en public, donc ce public qui est chaud bien sûr. Oh, ils sont jeunes, ils sont beaux.
Magnifiques, ils sont beaux.
Et ils sont avec Valérie Damido qui publie un ouvrage qui s'appelle Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette. C'est publié chez Michel Lafond. On va aborder avec vous le troisième sujet de cette émission. Où nous encourage-t-on à être infidèle? Où? Sur le cul des bus. Oui, la publicité d'un site spécialisé dans les relations extra-conjugales était en procès hier suite à la plainte d'une association catholique. L'infidélité étant devenue un business depuis qu'elle n'est plus un délit. C'était un délit avant.
À votre connaissance, votre mari a-t-il une liaison?
Lui? Paul? Mais enfin, voyons, gynécologue!
Ça vous dit quelque chose, des culs, monsieur le commissaire? Toute la journée, des culs. Toujours des culs, 30 à 40 touchés par jour, c'est sa moyenne.
Et elles aiment ça, les garces, il y en a qui reviennent tous les jours, tellement elles sont folles de son médius. Alors j'aime autant vous dire qu'une fois sa journée terminée, il ne pense plus qu'à une chose, faire ses mots croisés devant un restant de blanquette à la cuisine et vite aller dormir. Parce que le lendemain matin, à 7 heures sur le pont, des culs, toujours des culs.
Donc un homme heureux.
Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle dans Calmos de Bertrand Blier en 76. C'est toujours un article du Parisien aujourd'hui en France, c'est sa fête. Hein.
Belle journée aux Parisiens.
Bah ouais,
et on salue Bernard Arnault.
Bah bien sûr, comme d'habitude. Écoute, hein. Un gros bisou.
Votre collègue citoyen belge.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est un beau débat postmoderne, ça, Valérie Damido. Donc, une pub pour un site de relations extra-conjugales qui s'affichait au cul des bus. Comment vous réagissez face à cela? C'est le genre de choses qui vous choquent?
Vous avez l'air choquée, Valérie Damido.
Ah, je suis hyper choquée. Est-ce que franchement, non, mais c'est pas la semaine de l'affichage, hein, ni de la publicité entre ceux qui se choquent d'une campagne contre le VIH et ceux qui se choquent parce qu'on leur propose d'être infidèles. Est-ce que franchement, on prend les gens pour des cons? C'est parce que tu vois une affiche, d'un seul coup, tu dis, mais c'est pas con ça, je vais être infidèle, dis donc. Hop, hop, hop. Donc, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, je trouve.
Mais moi, j'avais jamais pensé avant. Donc,
voilà. Oui, bah, oui, bien sûr.
Éventuellement.
Les autres non plus.
Franchement, est-ce qu'une campagne pour... c'est juste la campagne, elle est laide, la campagne, elle est moche, on s'en fout en plus. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une campagne ou d'un site pour tromper ton mari ou ta femme?
De toute façon, à partir du moment où il y a un business là-dessus, qu'il y a une entreprise qui le fait, forcément, il y a de la pub derrière. Et alors, dans ces cas-là, si on est choqué, il ne faut pas s'attaquer plus en amont, c'est-à-dire quand le business se monte, qu'on ne le laisse pas faire?
Avant, il y a très longtemps, il y avait les bordels où tout le monde allait tromper joyeusement sa femme. Depuis, les bordels ont fermé, donc il faut bien trouver d'autres façons de tromper sa femme allègrement. Je pense que l'infidélité, c'est quelque chose qui fait partie de...
Hein, c'est valable pour les deux, hein. On peut s'inscrire, il n'y a pas de tromper sa femme, on peut tromper son homme.
Non, bien sûr, tromper son mari,
bien sûr. Nous, on n'a pas besoin d'un site. Votre mari sur la pub.
Oui, mais on n'a pas besoin d'un site, nous. C'est beaucoup plus simple.
L'exploitation du malheur des autres à des fins commerciales, c'est l'argument des opposants.
Bien sûr que c'est très triste d'être cocu. Franchement, est-ce que cette campagne de pub donne plus envie de tromper son conjoint? Je ne crois pas.
Mais c'est marrant, c'est les cathos, leur religion, elle est bâtie sur un adultère. Si Marie, elle n'avait pas été couchée avec n'importe qui, elle n'aurait pas trompé Joseph, il n'y aurait pas leur religion.
C'est vrai, en plus, la pub, c'est une pomme croquée. Donc,
en plus, voilà.
Ouais, évidemment.
Petite anecdote, parce qu'on en parle de ce site, donc ça leur fait de la pub. En Belgique, ils se sont fait interdire des affiches parce qu'ils avaient mis le roi Albert dessus, parce que lui avait eu des problèmes, justement, d'infidélité, et ils avaient dit, tiens, s'il avait connu ce site, ce que je ne citerai pas, résultat, on a parlé dans toute la presse de ce site, et leur campagne de pub qu'ils ont dû retirer a été deux fois plus importante. Marketing quand tu le tiens,
pas mal.
Bien.
Une réaction?
Ça, c'est le storytelling, mon petit bonhomme.
Très impressionné par...
Non, je me dis, peut-être c'est la pomme, en fait, qui fait une sorte de réaction inconsciente chez les cathos qui vont attaquer les
sites. L'instrumentalisation,
bien
sûr.
Moi, je pense, c'est un truc comme ça.
Est-ce que dans le public, il y a des maris qui trompent leurs femmes?
Oui, on va faire un sondage.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des fillonistes qui trompent leurs femmes?
Et là, tout le monde se lève. pour le moment Meurice.
Exactement, Guillaume Meurice est allé chez son invité. Enfin, il est allé dans la rue, puisque ah. son invité, oui, il habite dans la rue. Ah, il a été tendre son micro à un SDF.
Il n'a aucune pitié.
Non.
Écoutez, moi je dois vous dire que depuis notre tour d'ivoire bobo islamo-gauchiste, hein, tour plus communément appelé maison de la radio, on entend quand même les critiques qui nous sont faites, je dois le dire. Gna gna gna, on donne pas la parole au petit peuple, aux gens précaires. Eh ben oui, oui, parce que sur Radio France, on donne la parole aux gens sérieux. Voilà, bon là c'est Yacine Bellatar, c'est un mauvais exemple aujourd'hui, mais enfin je veux dire, d'habitude oui. Tiens, par exemple, France Bleu, ils ont donné la parole à Norbert Bouvet, conseiller départemental de la Mayenne. Écoutez ce qu'il a dit sur l'antenne à propos des allocataires du RSA.
Quand on est conseiller départemental, on rencontre beaucoup de RSA. J'en fais partie. Et quand on voit dans quel état sont ces gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus de famille, qui, avec l'argent que leur donne la société, achètent plus d'alcool, de drogue et de prostitution que véritablement ils essaient de s'en sortir.
Et ben voilà. Et ben c'est le rôle du service public. Inviter des gens qui ont des choses à dire. Alors moi, je veux bien, attention, je veux bien donner la parole à ceux qu'on n'invite jamais. Jouons le jeu. Ok. Ce matin, j'ai interrogé Christian. Il est sans abri. Il vit dans les rues de Paris. Qu'est-ce qu'il pense des propos de Norbert Bouvet?
L'alcool, je dis d'accord. Ouais. Je dis d'accord parce que faut bien vider les excédents de la production française. Donc c'est une démarche citoyenne. Quoi.
L'alcool, on est bon.
Voilà. La coke, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Et puis les putes, non. Ça, c'est réservé pour Strauss-Kahn quand ils vont se taper des putes. Parce que dans la rue, on est des romantiques.
Oui, alors attention, attention, Christian, hein, on ne peut pas dire que DSK n'est pas romantique. C'est un style particulier de romantisme, hein, mais on respecte. Disons qu'il est plus proche de Michel Fourniret que d'Alfred de Musset. Mais un petit peu de respect, parce qu'on pourrait dire, regardez les Français, là, ils ne respectent plus rien, c'est dramatique. Mais alors attention, Christian, il n'est pas exactement français.
Moi, je suis un Suisse qui me suis dit à un moment, j'irais bien payer des impôts en France.
Mais ça veut dire que vous êtes un migrant?
Ouais. Ouais, je suis un migrant.
Ah, mais ça veut dire que vous venez voler la pauvreté de nos vrais clochards à nous?
Ouais, exactement. Je suis là pour ôter le pain de la bouche des clochards français.
Et voilà! Et ça, on n'en parle chapeau, jamais des clochards chapeau. Suisses qui envahissent nos trottoirs. On leur file notre thune, ils envoient leurs pauvres. Bravo la Suisse! Alors, Christian, bon, il est précisément franco-suisse, hein. C'est un petit peu spécial, c'est vrai, pour un SDF. Alors, SDF, d'ailleurs, c'est un terme qui est controversé, jugé un peu trop technocratique. Qu'est-ce qu'il en pense, Christian?
Ça veut rien dire, ça veut dire sans difficulté financière, parce que à la base, quand t'as pas de thunes, ben t'as pas de difficulté de thunes. Et puis SDF, ça veut rien dire, parce que Bolloré ou Lagardère, ils sont aussi SDF. Hein. Un appart à Miami, un à New York, un à Montréal.
C'est vrai que du coup, il faut les plaindre, en fait.
Bah ouais, c'est des SDF comme nous.
Voilà, heureusement, il a un petit peu de compassion, hein, Christian. Il n'est pas encore tombé dans la haine du riche, qui est vraiment, alors ça, typiquement français. Moi, je l'avais, hein, d'ailleurs, cette haine du riche, hein, mais je ne l'ai plus. Hein, j'y pensais, d'ailleurs, tout à l'heure, en mangeant mes pâtes aux truffes. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai plus la haine des gens qui ont du pognon. Hein, c'est bizarre. Et puisqu'on en parlait, tiens, est-ce que Christian, il aime Bolloré?
Ouais, en plus, comme je fume, j'utilise des OCB.
Ah oui, donc à fond Bolloré, quoi.
Ah ouais, à fond.
Vous êtes vénal, en fait.
Ouais, parce que j'ai essayé l'anal, mais ça passe pas.
Voilà, attention, oh attention, Christian, les blagues salaces, c'est notre truc, ça. Il va pas essayer de nous piquer notre place, quand même, hein. Attention, c'est notre boulot humoriste. Alors, je rigole pas, il essaye de piquer notre place. Écoutez son analyse sur François Fillon.
Bah, j'ai remarqué un truc sur Fillon. T'enlèves le L, ça fait Fillon.
Ouais.
T'enlèves encore le deuxième L, ça fait Fion. Ouais. T'enlèves le O, ça fait Fin. Et t'enlèves le I, ça fait FN.
Et ben voilà. Et ben voilà, mais je suis désolé. Moi, si je donne la parole tous les jours à des gens comme ça qui sont drôles et qui ont des choses à dire, qu'est-ce que je fais, moi, après? Voilà. Sarkozy, reviens. Tes fans me manquent terriblement. Voilà. Alors, bon, comment ça se fait que Christian s'intéresse autant à la politique?
Bah parce que moi, le matin, quand je bois mon café et que je mange mon pain au chocolat à 15 centimes, j'aime bien écouter des conneries. Donc.
Attention, je vous sens sarcastique sur Jean-François Copé.
Bah oui. Hein.
Par exemple, est-ce que vous pourriez me dire le prix d'une Rolex?
Le prix d'une Rolex, ben c'est en fait, je peux pas vous le dire parce que j'ai raté ma vie. J'ai 40 ans, j'ai pas de Rolex.
Ah, vous voyez, vous êtes déconnecté de la réalité quelque part.
Exactement.
Et ben voilà, ça lui rabat un petit peu son caquet, hein, quand même, à Christian. Ça marche pas que dans un sens, hein, cette histoire de déconnexion. Fini le chantage, hein, l'arrogance du pauvre, on la connaît. Oui, sous prétexte que 500 morts tous les ans en France dans la rue. Bon, ceci dit, c'est vrai que Daesh à côté, qu'est-ce qu'il en dit, Christian?
Ah ben, on peut dire que Daesh, c'est des petites bites. Hein. Je veux dire, laisse faire la rue, laisse faire le froid, Daesh à côté. Mais ouais, Daesh, c'est des petites bites, hein. Vraiment des petites bites.
Voilà, bon, la conversation devient beaucoup trop risquée, hein, je suis désolé. Alors, je vais vous dire, si vous voulez continuer la discussion avec Christian, vous pouvez le retrouver sur Twitter, c'est comme ça que moi je l'ai contacté. Il a un compte, c'est @pagechris75, mais méfiez-vous quand même des gens qu'on n'écoute jamais, parce que si on leur donne la parole, ils la prennent.
try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Or you see it your way, on the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight.
Alex.
Mais calmez-vous.
Stevie Wonder.
Bien sûr.
Et on reste dans cette belle enceinte du studio 105 pour accueillir Michael Youn. Il était très très en forme.
Il était en forme.
Public aussi, comme tous les vendredis, oh, comme tous les jours de la semaine, mais peut-être le vendredi c'est encore plus comme ça, quoi.
Termine.
Bienvenue Michael Youn et merci d'être là car vous venez à titre de par camaraderie.
Amical, j'habite le quartier de la maison de la radio. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup la Belgique aussi, comme je vous le disais. C'est un de mes pays préférés du Benelux, derrière la Hollande et le Luxembourg. Voilà, donc je suis venu par amour de la Radio France.
Merci, Michael. Et oui, parce que vous n'êtes pas ce qu'on appelle en promo. Généralement, on reçoit des artistes.
Non, mais si vous cherchez, je vais bien trouver un truc à vendre.
J'ai noté, il paraît que vous venez d'achever le tournage d'un nouveau polar d'Olivier Marchal.
Qu'on a tourné d'ailleurs ici. Les derniers jours de tournage étaient à la maison de la radio au 22e étage.
Ah, bizarre, non ? Avec une vue magnifique, donc. Ouais. Ça s'appelle Carbone et vous avez...
C'est sur l'arnaque à la taxe carbone d'une petite bande organisée qui a piqué 1,5 milliard à l'Union européenne en 6 mois. Voilà.
Tout simplement.
Un sujet rigolo.
Donc un beau sujet. Avec notamment Gérard Depardieu, vous l'avez
dit. Benoît Magimel, Laura Smet, des vrais acteurs, pas comme des saltimbanques que nous sommes.
Michael Youn, moi j'ai fait le Courflan quelques années après vous, et les professeurs nous disaient c'est un des plus talentueux dans le théâtre contemporain.
Ouais, mais malheureusement.
Mais oui, mais c'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé entre
Pourquoi vous faites la nudité quand même
Parce que je crois que mon identité elle est plus dans la comédie. C'est plus quelque chose qui me convient. Je pense qu'on a un clou à enfoncer. Que le mien c'est celui-là.
Mais vous aimez
alors
ça
après,
vous
aimez ça. Mais c'est plus par curiosité égoïste en fait. Par exemple, quand je vais tourner avec Olivier Marchal, j'ai l'impression que ça me fait plus plaisir à moi qu'au spectateur. mais voilà. Donc moi je nourrit un espèce de rêve d'acteur un petit peu, voilà, comme ça, à l'américaine, où chacun peut faire ce qu'il veut. En France, j'ai l'impression que c'est plus pratique de ranger les gens dans des cases. Et moi, justement, j'aime pas trop ça.
Alors, à la fin d'un tournage, il y a une fameuse fête de fin de tournage. Je note Olivier Marchal, Gérard Depardieu, Michael Youn.
Je vais pas vous mentir, j'étais limite d'annuler. Hein.
Et est-il vrai que vous préparez la suite de Fatal? Alors Fatal, ça avait fait quand même, si je ne me trompe, 1,5 million d'entrées.
Non, mais dites pas ça devant Thomas Bidien. C'est ridicule, 1,5 million d'entrées.
Thomas qui est scénariste.
C'est, pour lui, c'est le café, c'est personnel pour
moi. Je fais des films qui sont disponibles en pharmacie sur ordonnance.
C'est vrai, donc Fatal 2, ce serait 6 ans après, donc un rappeur plus apaisé, un petit peu mature.
Je vois pas comment vous pouvez dire ça, dans la mesure où même dans ma tête, ça n'existe pas. Donc, là, non, mais c'est vrai, il n'y a rien à ce niveau-là.
Non, c'est vrai.
J'aimerais bien, mais il faut que je trouve une bonne idée, quoi.
Très bien.
Mais quand je vois ce qui se passe aux États-Unis avec Kanye West, qui est tantôt dans un hôpital psychiatrique, tantôt je me présente à la présidentielle, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec un rappeur qui voudrait aller tout en haut, au sommet de l'État.
En tout cas, si vous cherchez une comédienne, Guillaume et moi, on avait croisé une certaine Marion Cotillard dans les couloirs de France Inter.
Et elle a dit
qu'elle vous kiffait comme réalisateur. Ouais,
j'ai entendu cette interview parce que vous pensez bien qu'on m'a prévenu. Et qui a dit Marion Cotillard qui a dit que sa comédie française préférée c'était Fatal.
Ouais. Alors,
voilà.
Et elle a dit qu'elle le ferait gratos.
Alors, ça devait être en off parce que moi j'ai entendu l'interview, elle a pas parlé de ce prix-là. Non.
Ah.
Non, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir. C'est dans l'humour, on a des strokes positifs, j'appelle ça des strokes positifs du public. On en a quand même beaucoup moins de la part de la profession, donc quand il y en a, moi je prends.
Allez, on va aborder ensemble ce premier sujet. Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, car si vous faites partie des 9,5 millions de Français mal inscrits, vous avez jusqu'au 31 décembre pour obtenir le droit de vote en 2017. Et avec les 3,5 millions de non inscrits sur les listes, eh bien c'est presque 13 millions de Français qui risquent de ne pas pouvoir voter. Alors on vous rappelle que s'inscrire sur une liste, c'est quand même pas si compliqué.
Bon, fiche de renseignement.
Non,
Henri.
J'ai demandé le nom, pas le prénom.
Non, mais c'est mon nom. Je m'appelle Henri. Thierry Henri.
Non. Ça, c'est un nom composé. C'est comme nous, Abdelkader. Ou encore Jean Mouloud. Bon, allez. Profession.
Footballeur.
J'ai demandé la profession, pas le hobby.
Non, mais je suis footballeur professionnel.
Dites-moi pas que c'est pas vrai! Thierry Henry!
C'était un extrait de H, la série avec Jamel, Eric et Ramzy. Alors, c'est la une de l'humanité aujourd'hui, s'inscrire sur les listes électorales, la bataille civique, avec à l'intérieur un article qui dit les classes populaires seront-elles privées de scrutin, les jeunes aussi. Une toute première question, Michael Youn, est-ce que vous vous rappelez, vous, quand vous vous êtes inscrit sur les listes électorales, si vous l'êtes,
oui.
C'était à quel âge? Est-ce que vous avez un souvenir de ça?
18 ans, non, j'ai fait ça dans les règles, juste après, quand j'ai perdu mon pucelage, à peu près au même moment. Je me souviens, la première fois que j'ai voté, c'était pour des européennes d'ailleurs.
Ah. Ouais.
C'était pour Pompidou à l'époque.
Non, c'est.
Européennes. Alors, c'est vrai que les jeunes sont désormais inscrits automatiquement à 18 ans. Enfin, une avancée là-dessus, mais rapidement, ils déménagent, ils quittent le domicile familial. Et quand on déménage, il faut signaler à la mairie qu'on a déménagé. Sinon, on est ce qu'on appelle mal inscrit. Donc là, il faut se manier, les jeunes, et il reste une semaine. Michael Youn, vous le.
Enfin, sauf s'ils veulent voter François Fillon. Dans ce cas-là, vous avez le temps. Ça peut se faire en mars, d'ailleurs.
J'avais oublié France Inter, évidemment. Je pensais que t'allais dire Marine Le Pen, mais non, même pas.
On n'est même pas là.
Macron, oui.
Est-ce qu'il y a un fioniste dans la salle? Vous ne serez pas jugé. On vous aime quand même.
Vous serez pendu, par contre.
Hein? Alors, attendez, fioniste? Mm-hmm. C'est comme ça que vous dites?
Ah oui, un fioniste.
Oui, c'est quand on le dit très vite, ça fait quand même fioniste. Hein.
Oui, c'est les jeunes.
C'est élégant, c'est bien.
Les jeunes avec Fillon, les vieux avec Fillon, tout ça.
Ouais. Mais si on retourne voter chez ses parents, c'est bon.
Alors,
on est inscrit chez ses parents.
Ouais,
mettons.
Bien sûr.
Mettons, on n'est pas devenu très
chez ses parents, à l'endroit où tu habitais quand tu étais jeune, c'est ce que tu veux dire.
Juliette sera donc à Saint-Étienne pendant deux week-ends.
Dans la Loire, du côté de Saint-Chamond.
Oui, mais alors d'où l'idée, si je vous suis, Juliette, d'organiser les élections autour de Noël quand on rentre chez ses parents.
Tout à fait. Allez, on les avance, les élections. Allez.
L'idée, c'est que il y a eu peu de messages finalement à la radio, à la télévision. Il y a eu, enfin, je ne sais pas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Peut-être que je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Mais Michael Youn, vous qui êtes très écouté aussi, etc. Est-ce que vous auriez un message à dire à la jeunesse? Est-ce que oui, il faut aller s'inscrire? C'est quand même pas grand-chose. Et après, éventuellement, on choisit d'aller voter ou pas.
Ou
mais au moins,
pour
on a
Fillon
le choix.
Ou pas Fillon, hein. Non, mais je remarquais, j'ai payé aujourd'hui une amende avec mon téléphone. pouvait payer les amendes de voiture par téléphone. On pourrait très bien voter avec son téléphone portable. Pourquoi est-ce qu'on rend les choses aujourd'hui avec la technologie? On pourrait faire un truc très très simple quand même.
C'est vrai.
Une application, hop, tu votes et puis ça y est, comme ça. Et d'ailleurs, on devrait même le rendre. Moi, je pense que c'est pas un droit de vote, ça devrait être un devoir. Je sais qu'en Suisse, c'est obligatoire de voter, sinon on a une amende. Je pense que la démocratie devrait être obligatoire.
Voilà, le vote obligatoire, c'est une solution contre la
pression. Bien sûr.
Mais on se rend compte avec ce document de l'humanité qu'en fait, il y a des gens qui se rendent compte un peu au dernier moment qu'ils sont pas inscrits parce qu'ils sont mal inscrits ou ils ont oublié de s'inscrire ou ils trouvent ça compliqué. Si vous allez sur service-public.fr et que votre mairie est raccordée à ce service, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez tout simplement aller à la mairie aussi. Juliette, vous vouliez dire quelque chose?
Non, je suis déçue.
Sujet.
Je disais simplement que le fait de ne pas voter sur son téléphone, le fait qu'il y a un jour, un dimanche, où on s'emmerde un peu et on se lève plus tôt et on va voter, moi je trouve ça cool. C'est un moment où on trouve les gens de son quartier, par exemple de Saint-Etienne.
Il y aurait quand même plus de participation. C'est-à-dire que le premier parti de France, c'est quand même les abstentionnistes. C'est pas le Front National.
Ah, mais au niveau de la fraude, c'est un peu plus flippant quand même, au niveau du contrôle.
Mais c'est pas grave, comme ça, tu votes pour tout le monde dans ta famille avec le téléphone. Voilà. Et Marine est présidente.
Mais regardez, enfin il arrive qu'à l'Assemblée nationale, les députés nous disent que le doigt a ripé sur le boîtier. C'est un peu dangereux, non? Les smartphones, ils sont pas très grands quand même.
Oui, et puis là, au moins, il y a des gens qui te surveillent.
En tout cas,
tu habites le Valois.
Il y a aussi une forme de procédure un peu archaïque, évidemment, où il faut s'inscrire, etc. Mais tout cela commence à évoluer. Il y a une loi adoptée en juillet, mais dont on sentira les effets en 2019, avec plus d'automaticité et où on pourra s'inscrire plus tard que le 31 décembre. Voilà quelques bonnes nouvelles.
Est-ce que ça profite pas à la droite? Laisser des gens plus organisés.
Excusez-moi, vous pensez pas quand même que dans vos auditeurs, il y a peut-être quand même des gens de droite aussi?
Ah, bien sûr.
Mais on les aime.
Bien sûr, on les aime.
Ne les brocardez pas trop.
Ah non, mais on les brocarde pas. C'est le public qui a brocardé. Moi, j'ai rien fait. Thomas Bideguin, il est presque 17h30 sur France Inter. Nous sommes en public avec Michael Youn.
Oui.
Et vous nous parlez de quoi?
Vous allez voir de storytelling.
Ah bah oui.
Déjà, oui, comme d'habitude, de toutes ces petites histoires qu'on emballe dans des boîtes vides avec des jolis nœuds et qu'on nous met sous le sapin ou ailleurs d'ailleurs, et jusqu'à ce qu'on en ait vraiment plein la hotte. Voilà, en toute simplicité, le thème du jour, c'est la fin du monde. C'est souvent très pratique, la fin du monde, dans les récits. La fin du monde, ça crée, comme qui dirait, un enjeu. Ça marche comme ça. La fin du monde, en général, on la prédit. Elle est là, on l'annonce, elle avance sur nous, cruelle comme un jour sans pain, implacable comme une voiture sans chauffeur. Voilà, depuis les Mayas jusqu'à Nostradamus, en passant par le mariage pour tous ou Alain de Grindubourg, annoncer la fin du monde, ça permet toujours de raconter pas mal de chouettes histoires. On a le choix, chaque époque vient avec ses imprécateurs. Un jour, le soleil disparaîtra. Et les oiseaux voleront à l'envers. Et un jour, la mer de lave engloutira les montagnes. Et un jour, la Matmut fera faillite. Et là, pour nous les gars à France Inter, ce sera la fin. Oui, parce que la fin du monde, on la brandit en général comme une menace, comme le bras vengeur d'un dieu sans pitié. Car oui, un jour, Dieu sera très en colère et sa fureur sera telle qu'il nous enverra François Fillon pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et oui, les gars, ça nous pendait au nez. L'Apocalypse de Jean, d'ailleurs, est très précise sur ce point. Et même si elle ne nomme pas personnellement François Fillon, elle mentionne un homme avec des sourcils comme deux chenilles en train de s'accoupler et qui surgira du néant. Après que l'homme vieux et le nain aient capitulé, disent les Écritures. Enfin, au cinéma, c'est pareil. La fin du monde, c'est une source inépuisable de récits. Les extraterrestres, quand ils débarquent, ce qu'ils veulent, c'est détruire la planète. C'est pas nous tirer dessus à la terrasse des cafés. Dans les James Bond, c'est pareil. Ce qui montre le manque de réalisme d'ailleurs de la série, le plan du méchant, c'est pas de nous rouler dessus avec un camion. Non, la menace, c'est toujours la fin du monde. Et ça fonctionne parce que la fin du monde, elle est porteuse de fantasmes, parce qu'on a toujours peur que la prophétie se réalise. Et c'est là le terreau de tous les récits post-apocalyptiques, il y en a plein. C'est des histoires dans lesquelles la fin du monde a déjà eu lieu et où, en général, le héros erre solitaire et désespéré à travers les ruines d'un monde dévasté et violent, dépourvu de toute chaleur humaine.
La planète des singes.
Non, mon premier mariage. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans ces histoires, on se situe toujours avant ou après la fin du monde. Parce que dans les histoires, la fin du monde, elle correspond à un moment précis.
qui arrive ou qui est déjà passé. Alors que dans la réalité, c'est moins précis. Le moment est beaucoup plus difficile à déterminer. Est-ce que la fin du monde est pour bientôt ? Peut-être. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu ? On ne sait pas. Ben, en fait, l'impression qu'on a, ce serait plutôt d'être quelque part pendant la fin du monde. Un jour, les océans recouvriront la Terre. Bon, ben ça, c'est bon, on y est. Un jour, il neigera sur les dunes du Sahara. Ben ça aussi, c'est fait. Un jour, Mélenchon refusera d'être tutoyé à la télévision. Un jour, les marchés de Noël ne seront plus seulement cafards, mais mortels. Un jour, on fermera nos portes aux victimes des guerres et à leurs familles. Un jour, Donald Trump sera élu homme de l'année. Et cette même année, on perdra Prince et David Bowie. Un jour, le prolétariat votera pour l'extrême droite. Un jour, Emmanuel Macron sera l'espoir de la gauche. Un jour... des chercheurs japonais inventeront un sexe robot intelligent. Alors que vraiment, la dernière chose qu'on demande à un sexe robot... Mais bon. Enfin voilà, un jour, le chauffage s'arrêtera et ce sera la fin. Et c'est là notre seule réponse à tous ces oiseaux de mauvaise augure qui nous prédisent sans arrêt le pire. La fin du monde, c'est bon, eh ben on marche en plein dedans. Et visiblement pas du pied gauche. Alors heureusement que certaines choses ne changent pas et que... Comme tous les ans, le Père Noël a dressé la liste des enfants sages. Sauf que cette année, apparemment, la liste a été hackée par Poutine. Et donc, on ne saura jamais qui a été vilain ou sage. Le Père Noël est désolé, mais voilà qui expliquerait enfin pourquoi ces cadeaux sont distribués si aléatoirement.
Sujet 2, c'est M, le magazine du Monde, qui pose cette question en couverture. Peut-on encore être optimiste ? Car beaucoup d'intellectuels se font plutôt le porte-voix du déclinisme, comme notre ami Finkielkraut, hein ? N'est-ce pas, Finky ? Il est passé où, ton optimisme ?
Oh, ma cravate est laide. Oh non, mes fraises sont molles.
Antenne dans 30 secondes.
Oh non, j'ai fait une tache de fraises molles sur ma cravate laide.
Alain Chabat dans un programme court qui s'appelait « Avez-vous déjà vu ?» un programme à la télévision. Voilà, M. Le Monde pose cette question en une avec Raphaël Glucksmann en couverture. Je sais pas pourquoi la couverture est verte, c'est la couleur de l'espoir, le vert.
Ça,
voilà, c'est ça, ouais, je viens de comprendre.
C'est moche.
Alors,
hein.
Oui. Oui, mais Rafou, il est beau quand même, non ?
Il est de la famille d'André ou rien à voir ?
Ah oui,
c'est son fils. Hein,
oui.
Voilà.
Alors cette question, bah, je vous la pose.
Pas faire de gaffe, ouais, mais non.
Le Monde, tout ça, c'est bon. Bah, un peu loin de mes bases, hein. Je suis meilleur en foot, hein, mais bon.
Michael Youn, bah, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut encore être optimiste ? On a quand même eu une bonne année de merde. On a envie de leur foutre au cul à tous, mais.
Ouais, je me suis dit ça l'année dernière. À la même période, j'étais content que 2015 s'arrête, 2016 allait être une belle année, puis paf, ça a recommencé, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir être un peu... c'est difficile d'être optimiste en étant français. Voilà. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'être français. La France, c'est plus trop qui elle est, elle sait plus trop où elle va, et on a besoin de voilà, on a besoin de faire un petit tour de la question, on a besoin de se retrouver, c'est pas évident.
Ouais. Mais c'est pas nier d'être optimiste, on peut se mettre dans une dynamique, je dirais pas une posture.
En tout cas, on a besoin de vous. Ouais. On a besoin de vous pour ça.
Mais nous aussi on a besoin de vous, Michael Youn, bien sûr.
Dans votre travail, il est quand même plutôt optimiste votre travail.
Oui, je suis un enthousiaste, optimiste, je pense pas, je suis enthousiaste. C'est sourions puisque c'est grave. Voilà, c'est plutôt ça.
Est-ce que autour de cette table, je lance la question à la cantonade, il y a des raisons d'être optimiste aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient là ? Juliette Arnaud, je vous vois.
Non !
Ah bah c'est peut-être pas Juliette qu'il fallait demander, si ?
Angelina Jolie est sur le marché.
Ah oui,
voilà.
C'est vrai.
Je sais pas, les initiatives locales...
Pourquoi Brad Pitt n'est pas sur le marché ?
Si, mais je pense que j'ai plus de chance avec Angelina.
Juliette Arnaud, allez-y.
Oui.
Allez-y, c'est votre moment, on vous attend.
Allez, j'y vais. Alors, en 1886, Georges Clemenceau disait... Bim, la guerre est une affaire trop grave pour la laisser aux militaires. Oui. 1886, c'est-à-dire bien avant la Première Guerre mondiale. Et de fait, lorsque Georges devint président du Conseil, en interrogation surprise,
93.
1917, il remisa les Joffre, Foch et autres pétains. Et un an plus tard, la guerre était finie. Merci qui ? Merci Jojo.
Oui.
L'idée, c'est un peu que les spécialistes d'une question ne sont pas forcément les meilleurs pour s'en occuper. L'idée, c'est de changer de perspective, de s'aérer. Ainsi, quand Stanley Kubrick, vous savez le mec de Shining, je tue toute ma famille, de Full Metal Jacket, une snipeuse vietnamienne tue plein d'Américains, de 2001 Odyssée de l'espace, un robot tue toute l'humanité, ou d'Orange Mécanique, une bande de délinquants essaye de tuer toute l'humanité. Donc Kubrick, le réel le moins sentimental, le moins niaiseux, le plus froid, se mêle des choses de l'amour, cela donne Eyes Wide Shut.
Une merde.
Retire ça.
Je suis désolé, c'est son plus mauvais film.
Je suis désolé. On
n'a pas polémiqué Juliette. Non. Vous savez très bien que nous ne sommes d'accord sur rien, sauf sur le fait que nous ne sommes pas d'accord.
Donc, à part que les...
Je peux pas vous laisser dire que Ice White Shot est un bon film. Je sors.
Tout Youn, taisez-vous.
Ce sera le sujet 3.
Ceci dit, Kubrick n'a pas vraiment apprécié Fatal Bazooka, donc il y a quand même...
Détrompe-toi. Non, il m'a envoyé un petit message avec Marion Cotillard.
Juliette, si vous avez besoin que Thomas Bideguin tranche, n'hésitez pas à vous tourner votre tranché, camarade.
Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Michael doit revoir le film.
Exactement. Donc, à part que les acteurs principaux de Eyes Wide Shut sont Tom Cruise et Nicole Kidman, le film, c'est à peu près l'inverse d'une comédie romantique. C'est-à-dire qu'à la fin de Eyes Wide Shut, personne n'embrasse personne au milieu d'un aéroport avec des inconnus qui applaudissent. À la fin d'Eyes Wide Shut, vous ne pleurez pas comme une quiche avec un vague sentiment de honte. À la fin d'Eyes Wide Shut, en gros, vous avez le souffle coupé comme après une chute et un atterrissage sur le dos. Ça fait Mais on a chopé 2-3 idées sur la conjugalité intéressantes et le changement de perspective nous a aéré la tronche. Pourquoi l'amour fait mal, le livre d'aujourd'hui d'Eva Illouz, procède, mais en livre, du même genre de démarche, c'est-à-dire procéder à un courant d'air entre vos deux oreilles. Pourquoi laisser les souffrances de l'amour aux poètes, aux chanteurs, aux psys et aux réalisateurs de rom-com ? Pourquoi est-ce qu'une sociologue se pencherait pas sur les choses de l'amour ? Parce qu'en plus d'être une groupie de Clémenceau, enfin je crois, Eva Illouz, prof de socio à Jérusalem, raisonne ainsi. À la fin du 19e siècle, il était audacieux de dire « La pauvreté n'est pas que le fruit d'une moralité douteuse et d'une faiblesse de caractère. » C'est ça que les sociologues découvraient, ils disaient « Mais c'est peut-être le résultat d'une exploitation économique. » Et ben, elle, Eva, elle dit que de nos jours, peut-être, on doit évaluer l'échec de nos vies privées comme le possible produit de nos institutions. Grognement de plaisir surpris. Mais c'est que ça change la donne, cette affaire. Je sais pas vous, mais moi déjà, je respire mieux. Parce que jusqu'ici, imbibé de culture freudienne comme nous tous, ce qui nous était suggéré, c'était que le malheur amoureux était inévitable et un produit de notre propre psyché. Bref, nous étions les responsables indéniables donner des boires amoureux. En bon français, ça s'appelle la double peine. T'as mal à en crever, et c'est de ta faute. Merci, bisous, merci. Eva Illouz, elle cherche d'autres coupables que nous, les petites foules sentimentales. Elle traque ce qui, dans l'âge moderne, nous détraque. Très rare rime en traque. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est,
c'est vrai. Hein, rime riche, là.
Rime putain de riche.
J'avais foutraque, mais...
Ça marche.
J'avais Jacques Chirac, mais c'est faux.
Ouais. C'est une fausse. Alors, je cite Eva Illouz, un exemple de qu'est-ce que c'est que la modernité de l'âge moderne. C'est le moment où les femmes furent incorporées à la culture de la consommation comme des agents sexués et sexuels à travers l'idéal d'une beauté désormais entièrement sexualisée. Un idéal qui était l'objet d'une promotion agressive de par la conjonction de plusieurs industries, industrie de la mode, du cinéma, de la pub, de la musique, de l'industrie cosmétique. Tous ces secteurs économiques sollicitant et construisant un moi fondé sur l'érotisme. En bref, l'âge moderne, c'est le moment où la société de consommation met au centre de la scène culturelle le moi romantique et donc le consommateur par définition. Or, le consommateur, qu'est-ce qu'il a pour activité essentielle ? Non pas la sélection réelle d'un produit de consommation. Non, c'est pas ça qui lui plaît vraiment au consommateur. C'est la recherche imaginative. Vous savez, le plaisir imaginatif qui accompagne la sélection réelle. Ça vous rappelle pas un truc ? Emma Bovary.
Ah mais évidemment, bien sûr, oui.
Emma Bovary, ses rêveries imaginatives.
Le bouquin de Nabila.
Le livre préféré de Nabila. Les romans farcis d'histoires d'amour qu'elle dévore quand elle a 15 ans, Emma, avant son mariage, qui s'avérera médiocre. Et ses histoires d'adultère, médiocre. Et cette distorsion entre ses rêveries imaginatives et la réalité finissent par la conduire tout droit au...
suicide.
Merci. Ah, je me suis dit, d'accord, c'est pour ça qu'on nous fait étudier Madame Bovary au lycée. C'est pour ça que je l'aimais pas, ni elle, ni Gustave, qui ironisait sur ses malheurs à Madame Bovary. C'est facile de dire après, oui, Madame Bovary, c'est moi, Gustave, sale menteur.
Calmez-vous. Elle clash ce Gustave, Flaubert, elle est malade.
Ce conflit étant réglé, Juliette 1, Gustave 0.
Pardon.
Comme devoir de vacances pour les deux, pour les vacances de Noël et pour les cœurs brisés ou ceux qui se préparent à l'être. Je propose, et dans l'ordre, Madame Bovary, puis Eyes Wide Shut, puis Pourquoi l'amour fait mal, d'Eva Illouz, chez Point.
Bim.
Michael Youn est avec nous, on est ravis. Et à cette heure-ci, il y a quelqu'un qui...
s'ajoute à l'équipe.
Mais oui.
Est-ce qu'il va descendre les escaliers?
Ah oui, le vendredi, c'est le moment de Frédéric Promet.
Attention, moment musique. Bonjour Frédéric Promet.
Bonjour.
Il plug sa guitare, il a acheté des nouvelles piles pour vous aujourd'hui, je vous le dis, je le sais, je l'ai croisé au Monoprix. De quoi allez-vous nous chanter ?
Je vais essayer de faire rêver les enfants. avec une chanson sur Christine Lagarde. Libéré, délivré, vous ne m'emprisonnerez jamais. Libéré, délivré, je suis pas caissière dans un supermarché. J'ai pas volé un paquet de riz, je n'ai que contribué à vous piquer 400 millions pour les refiler à tapis. On fait partie des puissants, tout semble insignifiant. La peur d'être jeté en prison m'a quitté depuis longtemps. D'ailleurs, je n'étais même pas là à l'énoncé du verdict. J'étais chez moi à rire avec mes amis au FMI. Libéré, délivré, m'emprisonnerai jamais. Libéré, délivré, est-ce que vous m'imaginez en cabane, moi Christine Lagarde et mon carré Hermès. Mon pouvoir est si grand, soyez sûr que je vous emmerde. Soyez gentils les petites gens, j'ai pas de temps à perdre. À vous les pauvres, les tribunaux ordinaires. À nous les riches, un tribunal tenu par des confrères. Libérés, délivrés, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Libérés, délivrés, je vais pouvoir continuer. Et détourner des biens publics en toute liberté.
Ainsi s'achève cette semaine de Florilège, Alex.
Ça m'a bien reposé, cette affaire-là.
On va se retrouver lundi, oui, en direct, avec toute l'équipe reposée et donc en très grande forme.
Mais oui, dernière ligne droite vers la présidentielle,
ah
on
oui,
est chaud.
On l'a en target, là, c'est la cible, c'est parti. Avec toute l'équipe qui nous accompagne, merci à la technique, à Julien Dumont, merci à Anne-Sophie Ladonne, à la réalisation et à la préparation, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem, une équipe de choc. Pour accueillir lundi les rappeurs du groupe La Rumeur.
Oui, j'ai déjà vu le film.
À lundi.
À lundi.